La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à toutes et à toutes. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Deutéronome 4, chapitre, versets 1, 2 et 6. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Et Deutéronome 6, les versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe de sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen.
Je remercie Kevin pour sa lecture de ce livre et de ces versets. Le livre de Deutéronome. Je remercie aussi Anaïs pour son chant. J'ai beaucoup aimé ses paroles. L'histoire d'Annick, l'écoute, la tendresse et l'amour de Dieu, ce sont des thèmes qu'on trouve aussi dans ce livre du Deutéronome, quoi que vous en pensiez. En fait, quand j'ai été poussé à préparer cette méditation aujourd'hui, j'étais surpris après de trouver dans le guide d'études de cette semaine que ce livre du Deutéronome, et notamment ce chapitre 4, était aussi le sujet de l'étude de cette semaine. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais peut-être changer de sujet, puisqu'on va en discuter, on va apprendre des choses pendant la semaine, on va en discuter au moment de l'école du sabbat, donc peut-être que je devrais changer de sujet. Mais en fait, de mardi à aujourd'hui, c'était un peu juste. Alors j'ai dit, je vais quand même présenter le sujet que j'avais préparé pour aujourd'hui. Alors, laissez-moi voir les mains de tous ceux qui ont 35 ans et moins. Dans cette salle. Allez, n'ayez pas peur. Levez bien haut les mains pour que je puisse voir la différence avec le reste. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en majorité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en majorité. Et vous savez pourquoi? Parce que parallèlement, il se tient un culte au sous-sol pour une tranche d'âge qui aussi représente une portion non négligeable de notre chapelle, de notre assemblée. Mais je vais quand même essayer d'atteindre tout le monde, que ce soit les petits ou les plus grands, ce matin. Quand Jésus a décidé de remonter au ciel, quand était venue l'heure qu'il rejoigne son Père, il a laissé à ses disciples une promesse. Une parole que nous trouvons dans Actes chapitre 1er, le verset 8, où il dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent, quand nous lisons, nous parlons de ce verset, nous retenons plutôt la seconde partie. Vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Mais la seconde partie n'a pas plus d'importance que la première. Je dirais même que la première partie est probablement la plus importante du verset. Pour être les témoins de Jésus, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il dit explicitement Jésus, celui qui donne le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, quelquefois, nous focalisons sur l'action et nous oublions le moteur un peu de l'action, qui est l'Esprit. Jésus lui-même dit plus loin, Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Ça, c'était au verset 16 du chapitre 14 de Jean. Et au verset 25, il renchérit en disant, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vous invite à prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons demander cet Esprit sans lequel nous ne serons jamais de bons témoins, sans lequel nous ne pourrons jamais, Seigneur, connaître toute la vérité que tu veux nous enseigner. Que ton Esprit soit avec nous, avec chacun dans cette salle, du plus petit jusqu'au plus âgé, et nous permette d'entendre et d'écouter et de comprendre ta parole. Amen. En fait, cette injonction de Jésus, vous serez mes témoins, après avoir reçu le Saint-Esprit, a traversé des siècles, je dirais, des générations de chrétiens croyants, des générations de chrétiens adventistes croyants pour parvenir jusqu'à nous en ce 21e siècle, jusqu'aux jeunes du 21e siècle. En fait, le point de départ de ma réflexion, de cette méditation, était sur la façon dont s'exprime l'engagement des jeunes au troisième millénaire, et plus particulièrement l'engagement des jeunes adventistes. Comment sont-ils impliqués dans la vie sociale, professionnelle, dans la vie humanitaire, voire politique, dans les environnements où ils sont placés? Quel est leur impact? Quel est votre impact sur la société dans laquelle vous vivez? Quel impact voulez-vous avoir sur cette société? Je n'ai pas personnellement eu l'impression, en parcourant les évangiles, que Jésus avait laissé un catalogue de domaines ou de métiers dans lesquels on pouvait être un bon témoin et d'autres dans lesquels on ne pouvait pas l'être. Ce que le Seigneur demande à vous, jeunes, à nous aussi plus âgés, c'est que nous soyons impliqués dans le monde, dans la forme d'implication que vous aurez choisie, car Dieu nous laisse libres, mais il nous recommande de prendre conseil auprès de lui pour cela. Et c'est le Saint-Esprit qui sert aussi à nous guider dans cette voie. Michée 6, verset 8 dit, « Il t'a fait connaître ce qui est bon, et ce que l'Éternel réclame de toi, c'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est vrai que depuis la chute de nos premiers parents, Dieu cherche des témoins dans ce monde, dans ce monde pécheur. Dieu cherche des êtres jeunes, plus âgés, qui aient envie de le représenter. Souvent, c'est vrai, nous disons que le Saint-Esprit, nous avons lu que le Saint-Esprit est celui qui va nous perfectionner pour cette œuvre de témoignage. Mais quels sont les conseils ou autres, quelles sont les indications que donne la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas, avant de recevoir le Saint-Esprit qui lui est chargé de parfaire en nous cette œuvre pour nous rendre aptes à témoigner, est-ce qu'il n'y a pas des étapes qu'il faut franchir avant afin d'être un bon témoin, un être engagé tout au long de sa vie, à la bonne place ou aux bonnes places, parce qu'on peut occuper plusieurs places en tant que témoin tout au long de sa vie. Souvent, vous jeunes, nos jeunes, se posent la question, dans quelle voie devrais-je m'engager pour témoigner, pour impacter les gens, pour impacter le monde autour de moi? Quelle voie je dois choisir? Il y a autour de nous beaucoup de jeunes déjà qui sont impliqués, qui sont engagés dans des actions. Et je vais demander à Camille s'il veut envoyer la première diapo. Des jeunes qui changent le monde. Vous en avez certainement entendu parler, notamment au mois de mars de cette année. Le Nouvel Observateur, enfin OBS, l'OBS, c'est plus le Nouvel Observateur, c'est l'OBS, a publié un article avec ce titre, « Des jeunes qui vont changer le monde ». Et dans cet article, il y a toute une galerie de jeunes engagés dans des actions. Et je suis persuadé que vous connaissez, et surtout les jeunes, je suis persuadé que vous connaissez la première photo, vous la reconnaissez, c'est celle de Greta Thunberg, qui invite depuis un certain temps, je dirais, à la grève scolaire pour le climat. Cette jeune fille, je dirais carrément, de 15 ans, a décidé qu'il était temps que les jeunes agissent pour le climat. Et elle est même venue à Paris, elle est passée dans différents pays d'Europe. Et avec son action, elle a suscité un certain engouement, une voix, je dirais presque certainement une frénésie auprès des jeunes. D'ailleurs, vendredi encore, je prenais le transport en commun, et sur les quais du RER, il y avait des jeunes avec leur banderole qui avaient décidé de boycotter les cours pour aller manifester suite à l'invitation de Greta. Il y a encore d'autres jeunes qui sont engagés dans des actions. Vous avez entendu parler de ce jeune, le nettoyeur des océans. Ryan Slatt a décidé que ça suffisait que les océans soient pollués par tout ce qu'on y jette. C'est un jeune ingénieur, il a décidé de construire une machine qui permettrait de nettoyer les océans. Et il a déjà produit un premier prototype qui n'a pas vraiment fonctionné comme il voulait, mais il continue dans son action. Il y a encore d'autres. Juste à côté, il y a cette jeune femme, cette jeune Slovaque qui dit « Moi, je veux que la corruption politique s'arrête. » Et elle a réussi à faire tomber des gens de son gouvernement à cause de son action, à cause de son discours, à cause des actions populaires massives qu'elle a pu déclencher. D'autres encore, on passe à la diapositive suivante. Voilà. Cette jeune fille qui dit « Écoutez, elle est une jeune Canadienne, ça suffit maintenant. Vous voulez mettre des robots à la place de tout le monde? Eh bien, on va taxer les robots, puisqu'ils veulent travailler à notre place, ils veulent prendre notre place, et ils vont être taxés. » Et elle commence à être écoutée. Elle est pleinement engagée dans ses actions. Voilà, un certain nombre de jeunes qui sont engagés dans des actions. Mais il y a des moins jeunes aussi. Vous vous rappelez qu'Élise Lazarus, lors de la réunion de prière, nous avait parlé de Jadav Payeng, cet homme qui, depuis 1979, sur l'île de Majuli, à l'extrême nord-est de l'Inde, a décidé de refaire verdir ce coin. Plus de 540 hectares ont pu être, par lui seul, replantés, redonnés à la nature, grâce à son engagement, à son implication. Lui, il a décidé que son action n'allait pas rester quelque chose de pour lui seul. Il voulait que les autres profitent de cette action. Il est engagé pleinement. Il y a encore un autre qui a aussi planté une autre forêt. Il s'appelle Abdul Karim. Lui, il a 32 hectares. Il a fait reverdir aussi une forêt. Plus de 300 plantes médicinales, des milliers d'arbres et des oiseaux sont revenus dans ce coin. Voilà des gens qui sont engagés dans des actions, parce qu'ils se sentent appelés à témoigner de leurs valeurs, de leurs convictions. Et nous, jeunes chrétiens, et vous, jeunes chrétiens, qu'avez-vous décidé de faire? On sait bien que, plus que le monde, c'est le cœur des hommes qui doit changer pour que le monde change. Mais cela n'empêche pas d'agir. Dieu nous a établis comme gardiens de cette terre. Et il faut que nous en prenions soin. Il faut que nous soyons impliqués. Je ne dis pas que ce soit le seul endroit où il faut s'impliquer. C'est certainement le but, c'est de choisir sa voie d'application. Les foyers où nous grandissons, la famille, l'école, sont les premiers endroits qui nous forment, qui vous forment. Vous préparent peut-être, sinon certainement, même vous façonnent pour être les hommes, les femmes que vous serez demain, que vous êtes déjà aujourd'hui. Mais ce sont aussi les premiers espaces où vous subissez des influences. C'est aussi les premiers espaces où vous exercez des influences. C'est aussi les premières sphères, les premiers endroits où vous montrez votre engagement, votre implication dans les bonnes, quelquefois les mauvaises actions. La Bible présente plusieurs cas de jeunes qui se sont impliqués et qui ont joué un rôle incroyable dans le monde. J'en prendrai trois, permettez. Le premier, c'est Joseph. Joseph est ce jeune nomade araméen qui, à cause de l'éducation et du caractère qu'il a développé, est devenu le premier ministre de l'Égypte. L'équivalent, je dirais, du premier ministre. Tout cela parce que il a décidé qu'il sera un témoin. Je ne sais pas à quel moment ça s'est décidé dans sa vie. Mais ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait rester fidèle aux valeurs, aux enseignements qu'il avait reçus. Et Dieu l'a utilisé plus tard à une place incroyable. Un autre jeune auquel on ne pense pas souvent, Esther. Esther, cette jeune femme, jeune captive, qui n'était plus captive à l'époque, je dirais, mais qui était quand même exilée à Babylone. La plupart des citoyens juifs étaient déjà retournés dans le pays des Juifs. Et cette jeune femme, qui a gagné un concours de beauté, est devenue reine de la Perse. Une position incroyable aussi. La reine d'un empire immense qui allait de l'Éthiopie jusqu'à l'Indus. Cette jeune juive que Dieu a utilisée à cause de sa nature. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé qu'elle allait rester fidèle. Dans ce livre d'Esther, on nous l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, le nom de Dieu n'est absolument pas mentionné. Et pourtant, on sent la présence permanente de Dieu dans ce livre. Par les prières, par les jeûnes, par l'attitude d'Esther, par l'attitude de Mardoché. D'ailleurs, Esther, il était dit, faisait ce que lui disait Mardoché. Quand elle était reine, comme lorsqu'elle était encore sous sa tutelle. Et puis le dernier exemple que je prendrai de ce jeune engagé qui a impacté ce monde d'une façon incroyable, c'est Jésus, bien sûr. Ce jeune charpentier de Nazareth, mort à peine 33 ans, qui a laissé une empreinte indélébile sur l'humanité. À cause de lui, on parle de l'ère chrétienne. Jésus était quelqu'un d'engagé. Et il nous demande d'être aussi engagé que lui. Vous me direz, voilà trois exemples tirés de la Bible, mais l'apôtre Paul dit que des exemples comme cela, il y en a une nuée. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins, dit Paul dans Hébreux 12 au chapitre 1er. Regardez, parcourez la Bible et vous verrez que les témoins sont probablement bien plus nombreux que vous ne croyez et ont bien plus, je dirais, de leçons à nous donner que vous n'en pensons. Alors vous me direz, mais tout cela, qu'a-t-il à voir avec le Deutéronome ? J'en viens. Deutéronome, je pense, est une partie de la réponse de Dieu à notre besoin d'implication, à notre besoin d'être consacré à son service. Bien sûr, il faudrait lire le livre complet de Deutéronome pour comprendre le message de Dieu. Personnellement, je n'avais jamais lu ce livre en entier. Quelques extraits par-ci, par-là. Mais pour les besoins de cette méditation, j'ai décidé de le lire complètement. Et j'ai été frappé par tout ce que Dieu dit simplement dans ce livre. D'ailleurs, ce livre, il y a deux expressions verbales que l'on retrouve de nombreuses fois. Écoutez, écoute et mets en pratique. On trouve l'expression écouter plus de 30 fois dans le livre de Deutéronome. C'est l'endroit où c'est le livre où on se trouve le plus cette expression. Écoute. Ça signifie que Dieu a quelque chose à nous dire, à vous dire, jeunes, dans ce livre. Et l'autre expression, qui est retrouvée à peu près 29 fois dans ce livre, et c'est aussi l'endroit où on la retrouve la plus, c'est « mets en pratique ». Donc, il faut d'abord écouter pour mettre en pratique. Pour que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique, il faut d'abord écouter Dieu. Il y a aussi, j'ai trouvé aussi beaucoup de similitudes entre ce livre de Deutéronome et le livre de l'Apocalypse. De similitudes de situation, de personnes à qui s'est adressé. Le peuple de Dieu, après avoir erré pendant, le peuple juif, après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, est prêt à entrer en Canaan. Le peuple de Dieu, des temps modernes, je dirais, après avoir erré de nombreuses années, n'est-il pas en train de se préparer à entrer dans la Canaan céleste? Alors, il y a aussi une similitude de langage. Malheur à celui qui ajoute quelque chose, dit dans le Deutéronome. C'est aussi l'expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 18, où j'ai dit malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose dans ce livre. On a aussi des similitudes de structure, je dirais même, dans le livre, entre Deutéronome. C'est une structure qu'on retrouve souvent dans certains livres juifs. Cette structure de symétrie, c'est-à-dire autour de quelque chose de central, on dit quelque chose au début, on la répète à la fin. Il y a des correspondances. Par exemple, le Deutéronome est construit autour de certains chapitres qui sont autour du pivot central des chapitres 12 à 26. Avant le chapitre 12, on trouve des choses, ce que Dieu dit des choses, qu'il va répéter après le chapitre 26. Tout cela pour mettre en exergue, pour mettre en valeur ce qui est contenu dans les chapitres 12 à 26, qui sont les lois de Dieu. En fait, le Deutéronome insiste sur l'importance d'écouter et de mettre en pratique la loi de Dieu. Il y a quatre verbes qu'on trouve aussi dans ce Deutéronome, et notamment dans le passage que nous a lu Kevin au chapitre 6, le verset 4 à 9. Quatre verbes importants. Écoute. L'Éternel est un, Israël. Et aime l'Éternel. Et que soient sur ton cœur ces paroles. Et transmet. Écoute, aime, que ces paroles soient sur ton cœur et transmets-les. Voilà comment on peut se qualifier. Voilà comment vous, jeunes, nous, adultes, nous pouvons nous qualifier pour être des témoins authentiques. Nous avons à écouter Dieu, à l'aimer, à avoir ses paroles dans nos cœurs. Et ensuite à transmettre ce qu'il nous donne. Ma question est la suivante pour vous, jeunes et adultes. Comment voyez-vous votre engagement dans ce monde dans lequel vous vivez? Comment pensons-nous l'impacter durablement dans ce troisième millénaire? C'est vrai que le message adventiste est certainement l'un des plus beaux messages d'espérance qu'on puisse avoir. Car il est global pour l'être humain. Il concerne la dimension physique, spirituelle. Et ce message nous apprend non seulement à être ancrés dans la bienheureuse espérance du retour de Jésus, mais il nous apprend aussi à vivre heureux chaque jour. Et si nous suivons ces principes, Dieu nous promet que nous aurons ce bonheur, nous aurons cette vie en abondance. Il y a quelque temps, nous avons eu à l'école, à l'EPAL, l'école biblique de vacances, pour les jeunes de 4 à 15 ans. Et le thème de cette école était à la recherche des meilleurs médecins. On leur a présenté, avec les moyens qu'on avait, le programme dit New Start. Vous connaissez ce programme d'alimentation, d'eau, sunshine, de soleil, de la confiance, de l'air, le repos et la tempérance. Voilà ce programme que Dieu nous a donné, que nous avons pu enseigner aux enfants pour leur montrer comment ils pouvaient le pratiquer et s'engager dans la vie quotidienne. Et pas seulement dans le domaine spirituel ou religieux. Moi aussi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'ai passé l'examen de chef guide que j'ai eu. Une des choses qu'il fallait apprendre pour être chef guide, c'était une sorte d'engagement, une phrase que nous appelions, je pense à l'époque, le mot d'ordre. Le mot d'ordre, vous vous rappelez, est-ce qu'il y en a qui se rappellent les plus anciens quel était le mot d'ordre à l'époque? Le message adventiste au monde entier en cette génération. Est-ce que je me trompe? C'était ça, le mot d'ordre. Des générations ont eu ce mot d'ordre et je ne sais pas si nous avons réalisé ce mot d'ordre, car nous sommes encore sur cette terre à prêcher l'évangile. Donc ça veut dire qu'il y a encore des actions à faire. Nous sommes cette génération qui était très engagée dans cette propagation de l'évangile, dans ce partage de l'évangile. Mais nous faisions partie de cette génération à qui on disait en permanence, il faut se détacher des choses du monde, il ne faut pas se mêler au monde, il faut être à part, tellement à part que finalement, nous ne nous mêlions plus au monde. Nous n'étions plus ce que nous devions être. bien que nous leur apportions l'évangile, mais nous, probablement nous avions manqué un aspect de ce que Jésus nous avait recommandé, être le sel de la terre. Mais en voulant à tout prix attirer les gens à nous, en leur, offrant, en leur montrant la belle vie que nous avions, nous oublions quelquefois d'aller aussi vers eux, de partager leur vie, d'être impliqués dans les mêmes actions qu'eux, que ce soit au niveau social, peut-être humanitaire. Ce qui fait que quelquefois, nous sommes détachés de leur quotidien. Nous ne savions pas vraiment ce dont ils avaient besoin. Qu'est-ce qu'un adventiste? Qu'est-ce qu'un jeune adventiste au troisième millénaire? Quelle définition on pourrait donner d'un jeune adventiste? J'en ai une. C'est quelqu'un qui, en attendant la venue de Jésus, est fermement enraciné dans cette espérance, aime, craint Dieu et qui est soucieux d'impacter son environnement social ou autre, l'environnement dans lequel il est tous les jours. Jésus nous a bien dit, comme je l'ai dit un instant, « Soyez le sel de la terre ». Nous devons nous mêler donc aux autres pour donner de la saveur. Mais attention, dans certaines circonstances, dans certaines situations, nous devons d'abord écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous devons, avant de nous mêler, écouter toutes les instructions que Dieu nous donne pour être ce sel de la terre. Comment préparer, comment se préparer en tant que jeune, comment se préparer aussi en tant que parent à cette tâche? Assumons-nous, nous, en tant que parents, notre rôle de transmetteur de cet amour de Dieu, de cet engagement pour Dieu? Animateur de section, diacre, diaconesse, ancien. Je crois qu'après plusieurs décennies, je commence à peine à découvrir comment le Seigneur Dieu est sage et bon. Je suis probablement passé à côté de beaucoup de connaissances, de choses, par manque d'études et d'écoute de la parole de Dieu. L'écouter et la pratiquer. Je vous invite donc, vous jeunes et moins jeunes, à vous consacrer à l'étude de la parole de Dieu dès maintenant, car c'est ainsi que vous accomplirez de grandes choses là où Dieu vous appelle. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, mais le vrai succès sur cette terre et pour l'éternité ne réside que dans cette parole. Je vous invite à relire ce que le Seigneur nous dit dans le chapitre 6 de Deutéronome, Deutéronome 6, verset 4. Et à 9. Je vais lire dans la version Osterwald, c'est celle que j'ai. Vous avez certainement une version différente. Or, voici les commandements et les ordonnances et les statuts que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en gardant tous les jours de ta vie, toi et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Et nous lisons au verset que nous avons eu comme lecture d'introduction. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà le testament de Dieu à travers ce qu'a écrit Moïse pour chacun de nous. Écoutez l'Éternel, l'aimer, pratiquer, mettre sur notre cœur. Il est dit dans le psaume 111, le commencement de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Vous jeunes, vous avez tous les ingrédients dans cette parole pour vous lancer dans cette belle aventure de l'implication dans ce monde où vous vivez. À ceux qui voulaient empêcher les enfants de l'acclamer lorsqu'ils entraient à Jérusalem triomphalement, Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Si vous aussi, jeunes, particulièrement, vous ne décidez pas d'être au service de Dieu pour être ses témoins, impliqués à la place, dans le lieu qu'il choisit, que vous choisissez avec lui, alors d'autres le feront à votre place. Et c'est ce que nous voyons dans nous avons vu au début dans l'engagement de ces jeunes. Je ne sais pas s'ils ont une vie spirituelle, s'ils ont une vie religieuse, mais en tout cas, ils ont une vie humanitaire. Ils ont une vie de préoccupation de l'autre, une vie sociale bien, bien active et bien engagée. Alors, allons-nous, nous qui possédons cet excellent livre et ces excellentes recommandations, rester à la traîne? Je crois qu'il est vraiment temps que la jeunesse adventiste se lève et témoigne de ce que Dieu est, un Dieu sans limite. Mais il faut d'abord qu'elle écoute ce qu'il a à dire, qu'il prenne connaissance de sa parole. C'est le secret. Et ensuite, l'Esprit fera son travail. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord, écoutons, mettons en pratique, et l'Esprit nous rendra parfaits pour l'activité à laquelle le Seigneur nous dédie. Nous emploie, veut nous employer. Paul a dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ce que je vous invite, c'est ce que je nous invite, et c'est ce que vous, jeunes, je vous invite particulièrement à faire. Pensez à la gloire de Dieu. Amen.